Le SA15 Magattitude. Toute l'actualité du SA15, le lundi, 18h30, avec Fred et Christian.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du SA15 Mag Attitude. Nous sommes ensemble pendant 25 minutes environ pour parler du SA15, seulement du SA15 et rien que du SA15. Christian, bonsoir.
Bonsoir Fred.
Comment vas-tu?
Écoute, très bien, un week-end où toutes les équipes angoumoisines ont gagné, donc on souhaite que les week-ends s'enchaînent et se ressemblent surtout.
Ah ouais, tout à fait, un week-end merveilleux, on peut dire. On va voir ça dans quelques instants. Écoute, si tu veux bien, d'ailleurs, on va lancer le sommaire.
Le SA15 Mag Attitude, le sommaire.
Et oui, au sommaire de l'émission, nous allons revenir sur le match du SA15. Un SA15 qui recevait une équipe de Grenoble qui n'en finissait pas de gagner puisqu'elle restait sur 9 matchs sans défaite et dont 7 victoires et 2 matchs nuls. Donc c'était un match qui s'annonçait forcément très très compliqué car on le sait que dans le même temps, Carcassonne recevait Mont-de-Marsan et Montauban recevait Béziers. Donc le SA15 avait... peut-être à gagner, mais beaucoup à perdre aussi lors de cette journée. On va voir que ça s'est plutôt très bien passé. Les résultats des jeunes, on n'en a pas à vous donner. Donc on va faire l'impasse sur les résultats des jeunes pour ce week-end. Pour info, les espoirs, par contre, eux, jouent bien le week-end prochain, dimanche prochain. Ce sera au Stade des Rochers, ce sera face à l'USAP, l'espoir d'un maintien, puisque on le rappelle, ces joueurs espoirs se sont imposés à Montpellier lors de la dernière journée. Et en fin d'émission, nous allons parler du prochain match qui arrive très prochainement, puisque ça sera vendredi. Le SA15 se déplace à Aurillac, mais on peut lancer tout de suite le débrief du match.
Le SA15 Mag Attitude, le débrief du match.
Christian, le SA15 recevait une équipe de Grenoble en forme. Le SA15 recevait, donc se devait de l'emporter ou au moins ramener des points de cette rencontre, prendre des points puisqu'il recevait face à une équipe de Grenoble qui n'en finissait plus de gagner et en tout cas qui ne perdait pas. Et on peut dire, Christian, que cette équipe de Grenoble a fait trembler le SA15 dès le début du match.
Oui, une équipe de Grenoble qui restait sur une belle série de victoires mais qui avait joué en match en retard le week-end dernier à Aurillac. Donc contrairement au SA15, c'est une équipe de Grenoble qui n'avait pas de récupération, qui n'avait pas eu de week-end off entre les deux blocs. Et effectivement, Grenoble prend le meilleur départ avec un essai marqué par Schumann à la 8e minute, transformé par Glénat. Donc Grenoble mène rapidement 7-0 puis 10-0 grâce à une pénalité de Glénat à la 14e minute. Le SA15 réagit et va inscrire 6 points au pied par Sobus à la 18e minute et à la 30e minute. Donc le SA15 revient 6-10, mais Grenoble va marquer une pénalité par Glénat à la 41e minute, si bien que à la mi-temps, c'est Grenoble qui mène 13-6.
Une première mi-temps qui fait peur parce qu'on voit une équipe de Grenoble qui est quand même dominatrice par rapport à cette équipe du SA15, une équipe de Grenoble qui fait très peu de fautes dans le jeu, très peu de ballons perdus. Ils occupent très bien le terrain adverse. Dans le même temps, évidemment, on était sur nos téléphones pour regarder un petit peu ce que faisaient les adversaires. Et puis on voyait que Montauban était en train de mener à Béziers à la mi-temps. Et Carcassonne, c'était pareil, était bien face à Mont-de-Marsan. Donc on était un petit peu inquiet pour cette seconde période. Mais un tournant du match, Christian, va permettre à cette équipe du SA15 de revenir dans ce match, justement.
Ah oui, c'est vrai que le SA15 finalement tourne à 7 points. 7 points, ça n'est pas le bonus défensif, mais ça aurait pu être bien pire en termes de score.
Oui.
Et c'est vrai que Grenoble va prendre des cartons jaunes à l'image de Dridi, qui va prendre un carton jaune à la 45e minute, ce qui va permettre au SA15 de marquer une pénalité par Sobus. Donc du coup, le score n'est plus que de 13-9. Nouveau carton jaune pour Grenoble, carton jaune pour Escoura, qui va permettre au SA15 de marquer un essai sur cette occasion, avec l'essai d'Ayarza, qui n'est pas transformé par Sobus, mais le SA15 prend l'avantage 14-13. De 14-13, on passe rapidement à 21-13, puisque Gauthier Gibouin va marquer un essai dans la foulée à la 54e minute, transformé par Manu Sobus, 21-13, donc pour le SA15 à la 55e minute. Et puis, en supériorité numérique, le SA15 aura d'autres occasions de marquer un troisième essai. Malheureusement, les violets n'y parviendront pas. Et en fin de match, Grenoble va inscrire une pénalité par Glénat à la 73e minute. Et donc, le SA15 voit revenir Grenoble à 21-16, donc à moins 5 points. Et forcément, en fin de match, le SA15 va se faire un petit peu peur. Mais finalement, Les violets s'imposent avec en plus un dernier carton jaune pour Grenoble à la 80e minute avec l'expulsion de Dridi, donc qui écopera un deuxième carton jaune, donc carton rouge. Ouais. Et donc le SC Lois 15 qui s'impose 21-16, un point de bonus défensif pour Grenoble et 4 points pour le SA 15.
Ouais. C'est vrai qu'à la vue de ce match, ben c'était un match un petit peu bizarre, hein, parce qu'à la mi-temps, personnellement en tout cas, je ne donnais pas cher cette équipe du SA 15, tant les Grenoblois semblaient quand même maîtriser leur sujet. Mais comme tu l'as compté, le carton jaune notamment, le premier là, a coûté très cher à cette équipe de Grenoble qui à partir de là, c'est démobilisé, a pas su, fait que des mauvais choix quasiment, a perdu peu de ballons hein, finalement, mais a fait de mauvais choix. Et surtout le gros point positif, hein, Christian, c'est la touche angoumoisine qui a contré quasiment tous les lancers des joueurs grenoblois. Christian, c'est quand même presque, on va dire, une surprise, hein, puisque cette équipe du SA 15 avait de gros problèmes justement avec sa touche, aussi bien sur ses lancements, mais aussi pour contrer les adversaires. Et là, on se rend compte aujourd'hui, depuis plusieurs matchs, que finalement cette touche s'est réglée et que c'est surtout un point fort. C'est ce qui permet à l'équipe du SA 15, en tout cas face à Grenoble, je pense, de l'emporter.
C'est vrai que, comme tu disais, il y a eu pas mal de contres en touche et puis il y a eu surtout pratiquement un sans faute en termes de touche.
Je crois qu'ils en remportent qu'une touche, Grenoble, sur tout l'ensemble du match.
Alors que le SA 15 est pratiquement sans faute sur ses touches à lui. Donc, de coup d'un coup, dans le sens où le SA 15 profite de ses munitions en gagnant ses balles en touche et puis Grenoble, justement, est privé de munitions. De lancement de jeu, donc forcément c'est positif. Donc félicitations forcément à toute l'équipe, mais en particulier à Patchy Bidar et à Olia Avei qui a pris la suite un peu plus tard dans le match. C'est vrai que s'appuyer sur une touche, c'est important, et le SA 15 n'a pas pu le faire toute la saison, on va dire, donc c'est positif. Après, moi j'avais quand même des craintes, dans le sens, pas forcément par rapport à l'adversité, même si Grenoble restait vraiment sur une super dynamique. Et puis faut pas oublier quand même que Grenoble était deuxième, hein, donc quand on reçoit le deuxième, forcément on s'attend à un match compliqué. Mais c'est surtout en fait qu'il y avait une coupure entre la fin du bloc précédent qui avait vu le SA 15 gagner 3 matchs et ramener un bon point défensif du côté de d'Agen. Et forcément quand on a une petite coupure, à voir comment on va revenir, est-ce que ça casse la dynamique ou non. Et c'est vrai que cette victoire contre Grenoble, finalement, elle confirme cette dynamique, donc c'est vraiment positif.
Ouais, et puis c'est vrai que quand on va le voir, hein, mais les résultats des adversaires ont fait que il valait mieux quand même s'imposer, hein, face à Grenoble. Après, avant le match, il est certain que on n'envisageait pas forcément, hein, une victoire, mais au moins prendre un point de bonus défensif, s'accrocher, bon, pourquoi pas un match nul. Je pense qu'on aurait signé pour un match nul. Et vraiment, cette équipe du SA 15 est surprenante. Et surtout, je ne sais pas ce que tu en penses, Christian, mais j'ai l'impression qu'à l'inverse de ce début de saison, en fait, la pièce tombe toujours du bon côté. Parce que y a eu quand même énormément de matchs depuis le début de la saison qui se sont joués dans les dernières minutes. Ça s'est joué vraiment à rien, à un mauvais rebond qui permet à l'équipe adverse de planter un essai et qui fait que le SA 15 perd. Enfin, à chaque fois, les petits détails étaient pour l'équipe adverse. Et là, depuis quelques matchs, ces petits détails, les petits ratés, en fait, finalement, sont à l'actif des équipes adverses.
Oui, c'est peut-être
la... Donc, de quoi c'est dû ? Est-ce que c'est la réussite ou est-ce que c'est une équipe qui est sur une dynamique positive et qui se permet, en tout cas, de mettre l'adversaire sous pression ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Bon, je pense que c'est un peu les deux. Il y a de la réussite. C'est vrai que peut-être que finalement la transformation ratée par le joueur de Massy pour l'égalisation, peut-être que c'est finalement ça a été le tournant du match. Ça a été le tournant de la saison pour le SA 15. Au lieu de prendre 2 points, le SA 15 en prenait 4. Et peut-être que ça a été ça le tournant de la saison.
Idem pour Montauban d'ailleurs.
Ouais.
Qui est fou.
La réussite. Ils ont un peu plus de réussite, mais la réussite aussi se provoque. Elle se provoque par de la confiance. Et puis c'est aussi l'adversaire qui voit que peut-être que les adversaires se déplaçaient à Chanzy en se disant le SA 15 reste sur 5-6 matchs sans victoire, avec une série de défaites assez impressionnantes. Il venait peut-être plus conquérant à Chanzy, tandis que maintenant c'est vrai qu'en voyant la dynamique qui s'inverse, peut-être que les adversaires ont aussi un peu de crainte. Hein, c'est aussi se faire respecter, c'est aussi en gagnant des résultats. Et puis dernière hypothèse, on voit quand même beaucoup de joueurs maintenant, autant on avait eu beaucoup de rotations sur le début de saison, autant là il y a quand même beaucoup de joueurs qui enchaînent les matchs depuis depuis un gros mois, hein, des joueurs comme Shota Gojibanidze, hein, oui. Même Naboo,
Bekebou
en deuxième ligne, Jarmoni, Burgo, Jibouin, j'ai l'impression que cette troisième ligne, elle change plus trop, oui. Avec Copeland en finisseur. La charnière Sobhuis Ugalde qui est vraiment très bien installée.
Oui, avec Beau aussi, qui fait bon match quand il rentre. Hein.
Tout à fait. Et puis derrière, voilà, Lafitte, Lestremo, Ayarza, Mo, c'est vraiment les quatre piliers de derrière avec Revono qui était revenu dans l'équipe. Donc voilà, le SA15 s'est vraiment trouvé, je pense, des leaders qui enchaînent les temps de jeu. Et finalement, lorsque on passait d'un match à l'autre, il pouvait y avoir peut-être 10 changements dans l'équipe. Et là, je pense qu'on se retrouve, s'il y a 5-6 changements maximum dans l'équipe chaque week-end, c'est vraiment un grand maximum. Donc voilà, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui font que à la fois le SA15 a plus de réussite, mais à la fois en prenant des points, en gagnant des matchs, ça instaure un peu de crainte à l'adversaire, plus de crainte qu'auparavant. Et peut-être qu'en face, ça vient moins conquérant du côté de Chanzy, et forcément le SA15 se fait respecter et commence à regagner des matchs à domicile.
Ouais, tout à fait. Et puis moins de blessés aussi, hein, côté SA15 par rapport à ses adversaires directs, hein, parce que là d'ailleurs il y avait le retour de Koumbiraï, hein, qui n'avait pas joué depuis l'année dernière, hein, faute à plusieurs blessures, donc pas mal de retours également, donc une équipe du SA15 vraiment au complet. D'ailleurs on va l'entendre dans quelques instants en conférence d'après match, Vincent Etcheto et Pierre Lafitte reviennent un petit peu sur ce match. Et c'était Vincent Etcheto justement qui parlait aussi du fait d'avoir un effectif au complet, d'être obligé de faire des choix, ce qui est quand même un luxe quand on arrive en fin de saison. On va les écouter tout de suite en conférence de presse d'après match.
Un peu comme d'habitude à domicile, on est un peu timide, on n'arrive pas. Après, on savait que c'est une équipe qui est en confiance, qui joue, qui avait décidé de nous prendre sur du large-large en mettant Dridi notamment à l'arrière avec Konkone. On l'avait dit, il fallait qu'on soit solidaire, qu'on ait des soutiens intérieurs forts défensivement, qu'on contrôle leurs ailiers. C'est vrai qu'on rate des premiers plaquages. Offensivement, on perd des ballons parce qu'ils sont plus agressifs que nous sur les zones de ruck. Donc, on n'arrive pas à se mettre en place. Et c'est un petit miracle qu'on soit mené que de 7 points à la mi-temps. Et c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. Et on a eu la chance aussi. Il faut tout. Mais c'est vrai que le vent était tombé un peu. Il a ressoufflé en deuxième mi-temps. Donc, on a passé. On s'était donné ça comme challenge de passer beaucoup de temps de cette deuxième mi-temps dans leurs 40 mètres. C'est ce qu'on a fait. On a tenu quand même pas mal le ballon. On a mieux défendu, on a été beaucoup plus solidaires, avec des intérieurs forts, avec des plaquages plus efficaces, et comme par hasard on a récupéré des ballons, on s'est créé des occasions. Et le regret, c'est que en deuxième mi-temps on peut marquer deux ou trois essais de plus. Pierre vous le dira, il voyait des espaces, mais on doit améliorer encore nos sorties de balles pour mettre ce jeu qu'on veut mettre en place.
Il y a eu quelques petits réglages tactiques et stratégiques. On a commencé à gagner les duels, donc déjà face à une équipe qui gratte beaucoup, ils en ont gratté un peu moins. On s'est mis beaucoup plus facilement dans l'avancée, et puis après on a commencé vraiment à les briquer un peu plus et à revenir au score. Donc quand on gagne les duels, c'est un peu plus facile de jouer au rugby.
Je le répète tout le temps, mais le groupe vit bien, on travaille bien, bien sûr qu'on a des lacunes. Là, je tiens à féliciter aussi les gros parce que c'était en face une bonne touche, et je crois qu'ils leur ont confisqué 99% des ballons, je crois qu'ils ont qu'une touche. Donc ça a été aussi un tournant du match, hein. On a été pénalisé une ou deux fois sur la mêlée, mais sur la touche, on a eu nos ballons, même si on n'a pas lancé le jeu comme je le souhaitais, mais même le dernier ballon porté, c'est dur, avec une aussi pas pénalité. Mais après, défensivement en touche, on a été royaux, donc les avants ont fait le match qu'il fallait. Donc bravo à eux, et ça a permis que eux n'aient pas de ballon et que nous on ait un peu plus la possession sur ce deuxième mi-temps. Donc c'est tous ces détails, et on continue. Ce qui est bien, c'est qu'on est au mois de mars, presque au mois d'avril, et on continue à faire des progrès, et on a encore une grosse marge de progression, et ça va être important parce que les 6 prochains matchs, il faudra qu'on soit de mieux en mieux pour espérer vraiment se maintenir. Je l'avais annoncé, hein, que sur les 4 matchs du bas de tableau, il y en aurait 2 qui perdraient à domicile. Et je m'étais déjà dit que peut-être on serait dans le lot. Voilà, on a eu cette chance-là. Donc on est toujours devant Garka, même si ils ont grignoté un point. On est devant Montauban aussi. Et bien sûr, Massy qui a perdu à domicile chez lui hier. On est dans la lutte et on fait tomber une équipe qui jouera les phases finales, qui nous a fait beaucoup souffrir en première mi-temps, mais qui était sur 9 matchs sans défaite, 7 victoires. C'est un petit exploit parce que c'est rare qu'à Chanzy on fasse tomber les 6 premiers, mais ça va devenir une habitude parce qu'on a fait tomber Agen aussi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, et c'est bon pour les stats, même si j'aime pas trop ça. On peut rien lâcher, on n'a pas les moyens de calculer. On va y aller, on va faire l'état des lieux parce que ça, les joueurs me l'ont dit, ça a tapé fort, ça allait vite, il y avait plus de rythme que sur les derniers matchs qu'on a fait. Voilà, on va faire le point. On a lâché la journée de demain, les mecs vont récupérer. Je pense que la meilleure récup, c'est le sommeil et le retour en famille. On va faire le point pour voir qui est apte à jouer ce match. Et on mettra l'équipe la plus compétitive possible pour glaner peut-être un point.
Christian, bah forcément, hein, ils sont heureux. Après, bon, ils relativisent aussi. Hein, c'était un match à domicile. Carcassonne, on va le voir, s'est imposé à domicile. Bon, il y a que Montauban qui a été battu et qui, du coup, va se retrouver dans le rouge. Mais bon, une équipe du SA15 qui a fait le job. Vincent et Cheto, heureux, contents, mais il y a encore du taf.
Il y a encore pas mal de matchs à faire. Le SA15 dépend encore maintenu.
Exactement.
Après, voilà, on en parlera tout à l'heure avec quand tu donneras le classement, mais c'est vrai que, eh bien, l'écart s'est quand même agrandi par rapport à la zone rouge. On passait de 2 points d'avance sur Carcassonne à 5 sur Montauban. Donc c'est positif. Après, le petit bémol, c'est que il y a ces histoires de goal average particulier avec le SA15 qui l'a sur Carcassonne mais qui ne l'a pas sur Montauban. Donc bah pour moi personnellement, je pense que il vaut mieux que ce soit Carcassonne qui soit dans la zone rouge, puisque ça veut dire que Carcassonne doit finir un point d'avance avec un point d'avance sur le SA15 obligatoirement. Et par rapport à Montauban, bah c'est vrai qu'il y a 5 points d'avance, donc le SA15 reste quand même à la merci. On va dire qu'il faudrait 6 points d'avance sur Montauban pour vraiment être serein, dans le sens où le SA15 aurait vraiment un match d'avance sur Montauban, parce que c'est pas ce qu'on souhaite bien sûr, mais si la prochaine journée par exemple Montauban gagne à 2-5 points et le SA15 ne prend pas de points, eh bien Montauban repasse devant le SA15
et face à un résultat, le SA15 se retrouve relégable.
Donc on va dire que le SA15 est encore hors de la zone rouge. Le SA15 a passé une journée, il en reste encore 6 à franchir. Bien sûr, bon, en gagnant des matchs, ça ira. Mais
tous les matchs, ça ira très bien même.
Voilà, si le SA15 gagne tous ses matchs, le SA15 sera en pro des deux. On peut officiellement l'annoncer.
Oui, donc, même s'il n'en perd qu'un. Il y a quasiment 99% de chance.
Ouais. Et puis moi j'ai surtout hâte de voir ce Montauban Carcassonne qui aura lieu en fin de saison.
Et oui, là il y aura un
match direct.
Et là c'est là le coup sera à faire à ce moment-là pour prendre l'ascendant sur une des deux équipes.
Ouais, donc et je crois que dans le même temps le SA15 va recevoir Mont-de-Marsan, sur les confrontations directes, il y a un gagnant et un perdant, donc il y a forcément une équipe qui perdra des plumes, en espérant que le résultat soit favorable au SA15 au moment on verra quel sera le classement à ce moment-là.
Et on espère aussi que Mont-de-Marsan viendra avec les mêmes intentions qu'ils sont allés à Carcassonne. Au SA15, oui, ça serait pas mal.
Tout à fait. Donc, mais c'est vrai qu'en voyant le score à la mi-temps, en voyant que Béziers gagnait à Montauban et que Carcassonne mettait une rouste à Mont-de-Marsan, c'est vrai que c'est vraiment important que le SA15 gagne parce que Carcassonne est en train de faire un gros truc et puis Montauban c'était un peu le statu quo, mais c'est vrai que d'avoir gagné ça permet vraiment de faire un bon break par rapport à eux.
Eh bien écoute, il y avait d'autres résultats hein, bien sûr lors de cette journée, c'était la 24e journée hein, de Pro D2, on va vous les donner tout de suite. Jeudi avait lieu le premier match, c'était Massy qui recevait Agen et Agen s'est imposé à Massy 22-16. Agen condamne hein, quasiment Massy au national, même si mathématiquement c'est pas encore fait. Cette équipe de Massy est désormais à 12 points du premier non relégable. Ça me semble très compliqué. Vendredi, suivez donc tous les autres matchs. Vannes recevait Oyonnax et Vannes s'est imposé à domicile 17-7. Rouen-Normandie recevait Provence Rugby et Rouen fait match nul 29 partout. Provence avait pourtant marqué 4 essais hein, contre 2 pour Rouen, mais Rouen a réussi à accrocher ce match nul chez lui. Le SA15, on l'a vu, a battu Grenoble 21-16. Carcassonne a explosé, atomisé une équipe de Mont-de-Marsan vraiment très palote. 37-9, si bien que Carcassonne marque 5 points avec le bonus offensif puisqu'ils ont marqué 4 essais. Colomiers s'impose face à Aurillac à domicile 38-17. Montauban a été battu, alors ça c'est quand même la surprise, par Béziers à domicile sur le score de 33-24. Et enfin, Nevers est allé s'imposer à Biarritz. Biarritz, une équipe qui en ce moment fait beaucoup parler puisque son président fait des conférences de presse à la place des joueurs, enfin fait un petit peu tout et n'importe quoi, veut racheter un autre club, enfin est en train en gros de pas de couler son club mais de mettre cette équipe de Biarritz en difficulté alors qu'elle avait tout pour pouvoir jouer les phases finales. Mais enfin bon, voilà, il y en a qui aiment ça apparemment tous les ans, c'est un peu le même bazar à Biarritz. On espère que ça changera pour cette équipe de Biarritz qui trouveront un président un petit peu plus serein et qui pourront envisager peut-être, pourquoi pas, de remonter en top 14, tout au moins de bien figurer dans cette Pro D2 autrement que par médias interposés. Voilà. Au classement, on retrouve donc à la première place Oyonnax, qui est donc toujours premier, bien sûr, avec 88 points. Deuxième, Grenoble, toujours, hein, malgré sa défaite au SA15, 69 points. Troisième, Agen, 66 points. Quatrième, Mont-de-Marsan, 65 points. Colomiers est cinquième avec 62 points. Biarritz est sixième avec 60 points. Mais, juste derrière, suit 7e Nevers, 59 points, 8e Vannes, 58 points, 9e Provence Rugby, 54 points, 10e Aurillac, 52 points, 11e Béziers, 51 points, 12e Rouen, 47 points. Et là, on retrouve la lutte avec 13e le SA15, 42 points, 14e et non relégable, premier non relégable, Carcassonne, 41 points, donc un petit point d'écart. Et 15e, désormais, on retrouve Montauban avec 37 points. Et bon, dernier, bien sûr, 16e Massy, 29 points. Christian, la grosse mauvaise opération, bien sûr, c'est Montauban qui se retrouve relégable et qui, en plus, se retrouve quand même à 4 points du premier non relégable, Carcassonne. Et 4 points, c'est pas rien, même si on sait qu'il y aura une confrontation Montauban-Carcassonne.
Ouais, grosso modo, dans la lutte au maintien, trois enseignements à retirer selon moi ce week-end. La première, je pense que c'est fini pour Massy.
Oui.
Massy, maintenant avec 12 points de retard sur Carcassonne. Je pense que c'est compliqué pour eux. 12 points, c'est l'équivalent de 4 victoires, de 3 victoires, pardon. Donc, gagner 3 matchs sur 6 quand on est dernier, ça paraît quand même vachement compliqué. Donc, je pense que pour eux, c'est fini. Mais il reste encore une place à mettre. Donc oui, c'est certes la mauvaise opération est pour Montauban ce week-end, mais la vérité du lendemain n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Donc à se méfier. Mais par contre, troisième enseignement, si on se méfie de Montauban qui est 5 points derrière le SA15, on peut aussi regarder devant, puisque Rouen est également à 5 points du SA15. Rouen n'est pas encore sauvé et Rouen est à la portée du SA15.
Ouais, d'autant plus qu'on va le voir. Lors de la prochaine journée, Rouen se déplace à Vannes. Vannes qui vient de battre Oyonnax et qui se rapproche à 2 points seulement d'une place qualificative pour les phases finales. Donc cette équipe de Vannes ne va absolument rien lâcher. Très bien, on en a fini avec cette journée de Pro D2. On va passer tout de suite au prochain match, puisqu'il nous reste 4 minutes. Prochain match qui aura lieu donc vendredi pour le SA15 en tout cas. Ça sera à 19h30 et ce sera à Aurillac.
Le SA15, Magattitude, le débrief du match.
Christian, ma question est simple. J'ai deux questions. La première, est-ce que le SA15 peut le faire à Aurillac? Est-ce qu'il y a un bon coup à jouer à Aurillac? Et ma deuxième question est finalement, est-ce que le SA15 n'est pas l'équipe qui a le plus de chances de remporter des points à l'extérieur en sachant que Carcassonne se déplace à Béziers, que Rouen se déplace à Vannes et que Montauban se déplace à Agen? Voilà, le SA15 se déplaçant à Aurillac n'est-elle pas finalement l'équipe des mal classés ayant plus de chances de ramener des points de l'extérieur?
Oui, alors le faire, ce sera forcément compliqué. On rappelle que depuis que le SA15 est en Pro D2, le SA15 ne s'est jamais imposé à Aurillac, donc ce serait une première. Mais les Violets seraient vraiment inspirés de faire une première cette année. Ça permettrait vraiment de faire une belle opération. On voit qu'au match aller, la victoire d'Aurillac était vraiment difficile à encaisser pour le SA15. C'est un match qui aurait pu basculer en faveur des Violets. Et ça faisait partie du début de saison où il y a quelques matchs qui leur ont échappé à domicile sur des interprétations de l'arbitre ou sur des petits faits de jeu ou sur une petite non-réussite qui fait que les 4 points étaient partis à Aurillac. Par rapport aux autres concurrents, c'est vrai que sur le papier, le SA15 a le match contre l'équipe la moins bien classée, même si Béziers est derrière Aurillac au classement. Mais on espère que Béziers, que les Biterrois donneront un nouveau coup de main au SA15 après avoir battu Montauban, pourquoi pas battre Carcassonne. Et puis pour eux c'est vraiment important, je pense que si Béziers bat Carcassonne, ils auront pratiquement assuré leur maintien. Donc le SA15 a un coup à faire, d'autant plus que la dynamique est quand même favorable pour les Violets. Et puis par rapport à cette équipe d'Aurillac, c'est quand même une équipe d'Aurillac qui reste sur 2 défaites de suite, dont une à domicile. Pourquoi pas? On sait qu'Aurillac est une équipe qui compte beaucoup sur les matchs à domicile pour se maintenir. Pour le SA15, la recette est connue. Il faudra rester dans le match le plus longtemps possible en termes de scoring. Et puis en fin de match, on voit qu'en ce moment ça sourit bien, que les deux demi-temps sont plus aboutis, donc et que les fins de match surtout, eh bien même quand le SA15 se retrouve mené à 10 minutes de la fin, il y a quand même une réaction possible. Voilà, tant que le SA15 restera collé au score, tout sera possible. Maintenant, le SA15 va à Aurillac à la fin du mois de mars, parce que c'est mieux que d'y aller début décembre par exemple en termes de température. Voilà, donc je pense que tous les feux sont ouverts, donc maintenant il n'y a plus qu'à aller faire un exploit, parce que gagner à Aurillac ce sera un exploit, hein, parce que comme je l'avais dit précédemment, Aurillac n'a jamais perdu à domicile contre le SA15 en peut-être 5 ou 6 confrontations.
Oui, tout à fait. Ben, c'était des matchs toujours compliqués, mais j'ai le souvenir notamment d'un match qui tendait les bras au SA15, et c'est Adrien Yestaran qui fait un en avant quasiment dans l'embut, hein, donc à une minute de la fin du match, si ma mémoire est bonne, donc c'est toujours passé pas loin, mais malheureusement, effectivement... Voilà, mais pourquoi pas cette année finalement. Aurillac est quasiment maintenu. Il leur faut encore des points, mais effectivement, par contre, comme tu le disais, hein, Béziers assurerait son maintien en cas de victoire face à Carcassonne. Cette équipe d'Agen a besoin de points aussi face à Montauban, puisque Agen a 66 points et peut se retrouverait en cas de défaite, doublé par Colomiers, par Mont-de-Marsan, donc ne plus recevoir pour sa demi-finale, ce qui serait quand même assez compliqué pour cette équipe. Donc oui, effectivement, cette équipe du SA15, je pense, a un coup à jouer. En cas de performance à Aurillac, on pourrait commencer à entrevoir le maintien de façon plus sereine.
Je sais et pas puis ce que voilà, pense, l'objectif, mais... ça peut être potentiellement, il y a 5 points d'avance sur Montauban. L'objectif du week-end, ça peut être potentiellement d'augmenter ce capital.
Tout à fait.
Pourquoi pas d'avoir
6 points d'avance. Ah bah tu gagnes, ça fait 9 points. Bon, 9 points quand même, faut quand même aller les chercher en sachant qu'ils vont recevoir Carcassonne.
Oui.
Et que cette équipe de Carcassonne aussi perdra 4 points si toutefois ils étaient amenés à perdre face à Montauban. Donc ça ferait la balance. Je pense que voilà, en cas de bon résultat à Aurillac, le SA15, on aura un pied et un doigt de pied en Pro D2 l'année prochaine. On sera plus sur du 50-50, mais sur du 60-40, on va dire. Voilà, et bien écoutez, cette émission se termine. On va vous souhaiter bien sûr une très bonne semaine. On croise les doigts hein, vendredi prochain. Soyez, pour tous ceux qui, je sais pas d'ailleurs, je crois qu'il y a un déplacement prévu à Aurillac. Soyez nombreux à Aurillac, parce qu'effectivement, le fait de se déplacer, d'encourager son équipe, les joueurs, ils sont sensibles, et ça peut permettre de faire la différence aussi hein, pour cette équipe du SA15. Et puis, en attendant, on vous souhaite bien sûr une bonne semaine. On vous donne rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure. Salut !
Le SA15 Magattitude. Toute l'actualité du SA15, le lundi, 18h30, avec Fred et Christian.